There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans les ressorties du mois de septembre, nous parlons d'Une heure près de toi d'Ernst Lubitsch et Georges Cukor, La religieuse de Jacques Rivette, L'année dernière à Marianne Bad d'Alain René et Rue des Cascades de Maurice Delbez. Nous parlons maintenant des ressorties de ce mois de septembre, mon cher Antoine, et on débute avec un film co-réalisé, en tout cas officiellement, par Ernst Lubitsch et Georges Cukor, Une heure près de toi, réalisé en 1932, qui ressort le 12 septembre avec Maurice Chevalier, Janet MacDonald et Geneviève Tobin.
Oui, alors en fait, il n'a pas été vraiment co-réalisé. Ce qui s'est passé, c'est que Lubitsch était un peu à l'origine du développement de la carrière aux États-Unis de Maurice Chevalier et aussi du développement de la carrière de Janet MacDonald, qu'on a un peu oublié, mais qui était une actrice extraordinaire, très charmante. C'était à l'époque, dans la période pré-code, on l'appelait d'ailleurs la reine de la lingerie, parce qu'elle apparaissait souvent en tenue un peu légère dans les films. Mais en fait, c'était une soprano qui avait une voix extraordinaire, et donc elle est presque l'une des mères fondatrices de la... Elle est en fait la première star de comédie musicale américaine, à une époque où les stars de comédie musicale étaient plus chantantes que dansantes. Mais la caractéristique de Janet MacDonald, c'est qu'elle combine le fait de chanter d'une façon assez institutionnelle, parce qu'on est encore dans du chant lyrique, avec une façon de jouer qui, elle, est une façon très moderne et une façon très espiègle. Et donc, Lubitsch avait eu l'idée de créer des films musicaux dans lesquels il associerait Chevalier, qui était à la fois chanteur et acteur aussi, et Janet MacDonald. Ce film, Une heure près de toi, est le troisième film du couple Maurice Chevalier Janet MacDonald, qui en feront au total quatre. Le premier ayant été Parade d'amour de Lubitsch, et le deuxième, Aimez-moi ce soir, de Rouben Mamoulian. Il faut savoir que c'est un film que Lubitsch adorait, parce que il mélange, il y a à la fois le côté vaudeville, que Lubitsch aimait beaucoup, il y a le côté pétillant, il y a par moments, c'est assez méchant, notamment le personnage joué par Geneviève Tobin qui joue un peu la femme qui va s'interposer entre Janet MacDonald et Maurice Chevalier, et c'est un remake d'un film que Lubitsch avait déjà fait en version muette. Donc c'est extraordinaire parce que c'est un film qui est tiré d'un opéra et que Lubitsch avait fait en version muette. Donc on peut comprendre quelle était l'envie de Lubitsch de le réaliser en version parlante, une fois qu'on pouvait avoir mis le son quand même pour un opéra.
C'est mieux.
C'est quand même mieux. Beaucoup mieux ou une opérette, c'est beaucoup mieux de le faire avec le son. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment un film qui tenait énormément à cœur Lubitsch. Il est aussi un film révéré de Hitchcock et de Kurosawa. Enfin, c'est un film vraiment à voir.
Why did I kiss that Mitzi? I still can't feel it yet. And now I'm in a spot, and what a spot. For right out there is Mitzi, and right up there Colette. Should I be brave and misbehave or not? Should I say yes or no? Should I stay home or go? Why should I be afraid to fall? I'm only human. After all, I love Colette. I'm crazy for Colette. But oh, that Mitzi. I kiss Colette and I get all upset. But oh, that Mitzi. To stay or go, I really can't decide. But this I know, we can't all three be satisfied. I love Colette, I haven't weakened yet, but oh, that Mitzi.
Autre ressortie de ce mois de septembre, La Religieuse de Jacques Rivette, réalisée en 1966, qui ressort le 19 septembre en version restaurée 4K avec Anna Karina, Micheline Prel et Francine Berger. J'ajoute que le film sort la veille en DVD et Blu-ray le 18 septembre. Alors nous sommes au 18e siècle, Suzanne Simonin est cloîtrée contre son gré dans un couvent. Elle trouve un peu de réconfort auprès de la mère supérieure, mais celle-ci meurt peu après et est remplacée par une femme sadique qui ne cesse de brimer Suzanne. La jeune femme obtient l'autorisation de changer de couvent, mais reste toujours aussi déterminé à sortir. Le film est adapté bien sûr du roman de Diderot, qui est paru en 1796 à titre posthume. Diderot s'était lui-même inspiré de la vie de Marguerite de Lamarre, dont le père voulait accroître sa fortune, et l'a mise au couvent dès l'âge de 3 ans. Elle y restera jusqu'à sa mort. Jean Gruau adapte d'abord le roman en pièce de théâtre, puis il s'attelle avec Rivette à l'écriture du scénario, qui est une première fois soumis à la commission de censure, qui émet des réserves mais ne l'interdit pas. Le début, on peut le dire, d'un chemin de croix, c'est le cas de le dire. Rivette change la fin, que je ne révélerai pas. Alain Perfitte, ministre de l'information du général de Gaulle, reçoit alors des lettres de protestation de religieuses et de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui juge le film blasphématoire,
tous ces gens-là ne l'avaient pas vu.
Alors, exactement, que personne ne l'avait vu et que le film n'était pas encore sorti. Pour calmer les esprits, le film change de titre. Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot. Plus acceptable. Et Rivette ajoute en amorce, librement adapté d'une œuvre polémique de Diderot, ce film est une œuvre d'imagination, il ne prétend pas représenter une peinture exacte des institutions religieuses. En mars 1966, un nouvel avis de la commission est rendu public. Il interdit le film au moins de 18 ans, mais il accepte. Il accepte sa sortie en salle. Et pourtant, Yvon Bourges, nouveau directeur de l'information, décide purement et simplement de l'interdire. Le Canard Enchaîné parle alors d'inquisition. Le manifeste 1789 est publié dans la presse, regroupant des figures illustres de l'époque comme Duras, Prévert, mais certains membres du clergé et aussi des gaullistes, alors que l'on soupçonne Yvonne de Gaulle d'être à la manœuvre. Et puis intervient, quelques semaines plus tard, une fameuse tribune de Jean-Luc Godard dans le Nouvel Observateur, une lettre ouverte à André Malraux qui impressionne tout le monde par son silence étourdissant devant cette affaire. Malraux qu'il dénomme ministre de la Culture, dans laquelle il termine par ces mots. « Comment donc pourriez-vous m'entendre, André Malraux, moi qui vous téléphone de l'extérieur, d'un pays lointain ?» La France libre. Le ministre reste toujours silencieux. Le scandale prend une ampleur nationale alors que Rivette a toujours déclaré que ce n'avait jamais été son intention. Le film est finalement présenté au Festival de Cannes en compétition. Il ne reçoit rien, mais il est quand même plutôt bien accueilli. Et finalement, la décision d'interdiction est annulée en 1967. Les ministres, décidément, valsent à cette époque-là, puisque c'est Georges Gors qui est nommé et qui, alors là, c'est pour l'anecdote assez rigolo, envoie son conseiller culturel de l'époque, un certain Romain Gary, qui pense que le film ne peut choquer que par l'ennui profond qui s'en dégage. La Religieuse sort finalement sur les écrans en juillet 1967 et totalise 3 millions d'entrées. Alors aujourd'hui, on parle évidemment... Est-ce que l'histoire du film est-elle plus intéressante que le film lui-même? En le voyant dans une très très belle copie restaurée, il faut le dire. Le film, je trouve, a un peu perdu de son souffre. On a vu des films nettement plus virulents. Mais ça n'a peut-être jamais été l'intention, en effet, de Rivette, qui a fait un film très austère, très épuré, dans lequel il dénonce l'oppression des consciences et l'enfermement, un monde perçu comme une prison. Et le film est bien sûr aussi et avant tout porté par Anna Karina, qui campe une Suzanne Simonin à la fois inébranlable. C'est ça qui est assez stupéfiant quand on voit le film, et évidemment le livre de Diderot disait exactement la même chose, une foi inébranlable malgré les épreuves qu'elle traverse. C'est à noter enfin, c'est le dernier film que Jacques Rivette tournera avec un scénario.
Je suis ici contrainte et forcée. Je n'ai aucune vocation.
Suzanne, combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs?
Non.
Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées.
Je demande à être libre.
Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter?
Oui, madame.
Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent?
Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance.
Vous êtes donc coupable?
De quoi?
De tout!
Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes.
C'est donc à partir pris, vous voulez vous perdre.
Je ne sors rien d'ici.
L'année dernière, à Marienbad, d'Alain Resnais, réalisé en 1961, ressort lui aussi le 19 septembre en version restaurée avec Delphine Seyrig et Giorgio Albertazzi. Nous sommes dans un hôtel baroque. Un homme essaie de persuader une femme qu'il se serait connu et aimé l'année dernière à Marienbad. Elle nie et prétend ne se souvenir de rien. Le scénario et les dialogues sont signés Alain Robbe-Grillet, qui était à l'époque l'un des pères fondateurs du nouveau roman. Alain Resnais obtient pour ce film le Lion d'Or à Venise. Resnais, on le sait, presque toute sa carrière, hein, jusqu'à même ses derniers films, a été un expérimentateur de forme. Et l'année dernière à Marienbad, l'exemple le plus illustre, hein, c'est une œuvre en perpétuel mouvement, magnifié par des travelling éblouissants, je trouve d'une fluidité assez incroyable. Le début est à ce titre fascinant, puisque c'est un enchevêtrement de phrases, de bribes de conversations, de plans, de moulures au plafond, de miroirs, dans une déambulation de figures statiques, chuchotantes, presque dévitalisées. C'est évidemment, peut-être même un peu trop, l'incarnation du cinéma moderne, comme on l'a appelé, très conceptuel. Le film est en effet d'une fulgurante liberté, passant subrepticement d'un lieu à un autre, au milieu d'une réplique ou d'un changement de costume, et puis bien sûr sublimé par une Delphine Seyrig incandescente et spectrale. On est vite fasciné, mais aussi déboussolé face à cette rêverie mortifère dont on peine parfois à déceler le sens profond. Une œuvre particulièrement exigeante, hein. J'avertis quand même les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vue. Pour Resnais, il le définissait comme ça. C'est une comédie musicale sans chansons qui tente d'approfondir les forces du rêve dont toutes les interprétations demeurent valables au spectateur à trouver sa propre vérité.
M'attendiez.
Pourquoi vous attendrais-je?
Je vous ai moi-même attendu longtemps.
Dans vos rêves? Que vous inventez.
Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir.
Oh, laissez-moi. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre.
Je ne voulais pas vous souvenir.
Eh bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire.
Et on termine l'actualité de ces ressorties avec Rue des Cascades de Maurice Delbez, film méconnu réalisé en 1964, qui ressort en version restaurée 4K le 19 septembre avec Madeleine Robinson, Serge Nubret, René Lefebvre et Lucienne Bogart. Alors nous sommes à Belleville en 1963, c'est l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit seul avec sa mère, qui tient une épicerie café de la Rue des Cascades. L'arrivée de Vincent, l'amant noir de sa mère, vient bouleverser son existence. Alors, Maurice Delbez, on ne le connaît pas forcément, mais il avait réalisé plusieurs films déjà à cette époque, hein, avec quand même des vedettes. Lorsqu'il entreprend l'adaptation du roman de Robert Sabatier, Alain et le Nègre, alors il faut dire qu'on est à l'époque en pleine période de décolonisation, et il était plutôt osé, au début des années 60, de raconter l'histoire d'amour entre une femme blanche, veuve, et un homme noir. Alors, après un tournage mouvementé que le cinéaste décrit lui-même comme un enchantement épouvantable, le film sort sous le titre Un gosse de la butte, dans seulement quelques salles, et est retiré de l'affiche au bout de seulement une semaine. Cet échec ruine la carrière de Maurice Delbez, qui ne tournera plus d'autres films, qui tombe progressivement et très rapidement même dans l'oubli, jusqu'à cette très belle restauration, initiée au départ par un crowdfunding, qui rend justice à cette œuvre assez atypique, qui retrouve à la demande de Maurice Delbez son titre original Rue des Cascades, soit un mélange de nouvelles vagues quand même, avec ce côté naturaliste, cette façon de filmer le village de Ménilmontant, très réaliste en effet, très naturaliste, et puis aussi un ton un peu proche d'un Claude Antan-Lara dans la description de ce café, de ses client. On retrouve un petit peu ce ton-là. Et puis surtout, campé par une bouleversante Madeleine Robinson dans un rôle difficile et assez moderne pour l'époque. Alors, il faut dire que plusieurs événements ont lieu autour de cette sortie. Il y aura une projection en plein air du film dans la rue des Cascades. Il y aura des visites guidées de Belleville, un retour sur les lieux de tournage avec Patrick Bezzolato. Et puis, une exposition itinérante des photos de tournage dans le quartier de Belleville. Donc, voilà, plusieurs événements organisés autour de cette ressortie le 19 septembre.
Demain c'est jeudi. Tu viens à la piscine?
Non, je peux pas, je vais au caté. Et toi, tu vas?
Moi, je suis athée.
Qu'est-ce que c'est qu'un athée?
C'est quand on est pour la révolution.
Alain, veux-tu rentrer tout de suite?
Je n'en ferai jamais rien de ce gosse.
Pas vous en faire, c'est large bête. Le mien, c'est bien pareil.
Qu'il est timide, votre gosse?
Elle est ma boule, celle-là.
C'est les femmes, ça, mon gars. Tu les connais pas encore?
Elles sont quand même pas toutes idiotes.
J'en ai marre de faire l'amour comme on fait le ménage. Par devoir conjugal, pour faire propre.
Il sent vachement bon, ton mouchoir.
Une belle petite gueule comme la tienne, faut pas l'abîmer, mon Alain, tu regretterais plus tard.
T'as déjà embrassé des filles?
Non.
Moi, j'ai déjà embrassé 4 garçons. À la fois?
On aurait tout eu, hein?
Eh oui, c'est la vie.
T'as vu? J'ai poché à mon père. Un vrai, s'il fait le flic.
Un vrai roulette, tu me le files?
Bah, le pot, ouais. Avec quoi qui travaille à mon père si je te le file?
Vous pouvez pas comprendre, parce que moi, je pense dans l'absolu. Dans la philosophie. Ouais, pendant des siècles, on mignote des sauvages. On les instruit. On leur donne nos missionnaires à bouffer.
Bonjour tout le monde.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.